Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'écouter Radio Galaxie et c'est l'heure de votre chronique Info Énergie proposée par le PSU Toulousain. Et c'est Rémi aujourd'hui qui va nous parler d'isoler les murs. Bonjour Rémi.
Bonjour Francis.
Alors, nous allons aujourd'hui, comme je viens de dire, nous poser ensemble une question en apparence assez simple. Faut-il isoler ces murs ?
Alors c'est une question qui nous est régulièrement posée à l'espace Info Énergie et la réponse ne saurait se cantonner à l'affirmative ou à la négative. Elle va dépendre du type de bâtiment, de son année de construction, des problématiques que ses occupants rencontrent en matière de confort, d'humidité ou encore de consommation de chauffage trop élevée. Mais il est important de se poser cette question. Pourquoi ? Alors en premier lieu, parce que les murs constituent une des principales surfaces déperditives avec la toiture. Sur une maison classique de 100 mètres carrés, les murs représentent à peu de choses près la même surface que celle donnant sur la toiture. Donc si on rajoute un ou plusieurs étages, cette surface va augmenter et devenir la surface la plus importante. Des murs non isolés représentent en fonction des cas entre 15 et 40% des déperditions dans une maison. Ensuite, dans un bâtiment, les murs ont un rôle important dans la perception du confort ressenti. Comme nous venons de le voir, ils représentent une surface importante. Or, on peut considérer de manière simplifiée que la température qu'on ressent dans un bâtiment correspond à la moyenne de la température de l'air et de la température des parois. On prend un petit exemple. Si la température de l'air est de 21 degrés et que les parois sont à 15 degrés, la température que l'on va ressentir sera d'environ 18 degrés. Donc, avec une température de l'air constante, on se sentira plus confortable si la température des parois augmente, ce qui sera le cas si on les isole. Isoler permet donc de couper ce qu'on appelle l'effet paroi froide.
Tu dis que la question se pose différemment d'un type de bâtiment à l'autre. C'est vrai qu'entre une maison ancienne avec des murs de 50 cm minimum et une maison des années 60 avec des murs de 20 cm en parpaing, on voit la différence. Mais quelles sont les grandes familles de bâtiments? Quelles sont leurs qualités? Quels sont leurs défauts?
Alors, on peut considérer qu'il y a trois périodes de construction assez distinctes. La première, c'est ce que l'on va qualifier de bâti ancien. Ce sont les vieilles bâtisses qu'on trouve beaucoup sur le territoire. Alors, ce sont toutes les constructions pré-industrielles jusqu'à la fin de la guerre en 1945, c'est-à-dire avant que se développe de manière massive l'utilisation du ciment et du béton. Les murs sont composés en général de briques, de terre cuite ou de terre crue, de pierre, de galets, parfois un peu tout ça mélangé, et le tout maçonné avec des mortiers de chaux ou de terre. Leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas de barrière étanche à leur base, ce qui occasionne les fameuses remontées capillaires. Par ailleurs, ce sont des murs qui, par nature, laissent passer l'humidité entre l'intérieur et l'extérieur, donc sous forme liquide ou gazeuse, sous forme de vapeur d'eau. On peut dire que les murs respirent. Il est absolument primordial de ne pas bloquer ces échanges d'humidité en venant à poser des revêtements ou des isolants étanches, comme les enduits ciment, comme les laines minérales, ou du polystyrène par exemple. Du moment qu'on arrive à gérer ces problèmes d'humidité sur le bâti ancien, en respectant le fonctionnement du mur, ce sont des murs qui peuvent présenter des caractéristiques intéressantes d'un point de vue thermique et en termes de gestion de l'humidité. L'isolation des murs des bâtiments anciens doit donc s'envisager afin de réduire au maximum les consommations sur le chauffage, mais malgré tout en ayant toujours en tête ces contraintes spécifiques, notamment liées à la problématique de l'humidité.
D'accord, ça c'est pour les vieilles bâtisses, on a compris, on doit faire attention à laisser les murs respirer. Et qu'en est-il des bâtiments plus récents ?
Alors la deuxième grande famille, ce sont les bâtiments construits entre 1945 et 1974. On retrouve des constructions à base de briques de terre crue, de parpaings, de béton. L'architecture est en général assez simple et compacte. C'est ce qu'on appelle généralement la maison des années 60. Thermiquement, ce sont de vrais passoires à la base. La bonne nouvelle, c'est que ce sont les candidates idéales pour réaliser des rénovations énergétiques performantes. En faisant les bons choix, on arrive facilement à des bâtiments confortables et très économes en hiver comme en été. Enfin, on classera dans la dernière catégorie tous les bâtiments construits à partir de 1974, date de la première réglementation thermique suite au choc pétrolier. Donc, augmentation du prix de l'énergie, ce qui a impliqué, ben, on s'est dit, ah, il faut qu'on économise l'énergie. Donc, c'est de là que vient la généralisation des isolants dans les constructions. Donc, depuis 1974, les exigences en termes de performance énergétique n'ont cessé d'augmenter. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir comparer un bâtiment actuel soumis à la réglementation thermique, la fameuse RT 2012, dont ceux qui ont construit un bâtiment récemment savent qu'elle est assez contraignante. On ne va pas pouvoir comparer un bâtiment actuel avec un bâtiment construit en 1974. Néanmoins, les premiers centimètres d'isolant sont toujours les plus efficaces. Dans la mesure où ces premiers centimètres sont présents, il convient de faire un point afin de déterminer s'il est pertinent ou non de venir surisoler. On regardera si les consommations de chauffage sont importantes, si l'isolant est toujours en bon état et bien posé, sa nature, son épaisseur. On évaluera également la pertinence de l'action en fonction du projet de travaux dans son ensemble.
Tu nous as parlé donc des différents types de bâtiments. Peux-tu maintenant nous expliquer quels sont les matériaux d'isolation compatibles avec ces constructions ?
Alors tout d'abord, il est important de rappeler que le pouvoir isolant des matériaux dépend principalement de la nature du matériau. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un bâtiment a des murs en briques de 60 cm qu'on pourra considérer qu'il est isolé thermiquement. Un mur d'une quinzaine de centimètres composé d'une ossature bois enfermant de l'isolant sera hautement plus efficace. Donc pour juger de la performance d'un isolant, on va considérer en premier lieu sa nature et son épaisseur. Donc concernant le bâti ancien, on va privilégier des isolants respirants, comme la ouate de cellulose, la laine de bois ou encore le liège, toujours pour dans l'optique de gérer ces problèmes d'humidité. Par l'intérieur comme par l'extérieur, le mur doit respirer. Autre solution particulièrement adaptée au bâti ancien, le béton de chanvre. Vous avez peut-être jamais entendu parler, mais il s'agit d'un mélange de chaux et de paille de chanvre qu'on vient appliquer sur les murs, en intérieur ou en extérieur. Donc ce procédé, qui s'appuie sur des vieilles recettes, hein, c'est ce que faisaient les anciens à l'époque, donc ce procédé sort peu à peu de l'anonymat, et il va permettre de réaliser de véritables doublages isolants lorsqu'il est posé en épaisseur de 10 à 20 cm. Et il permet également de jouer un rôle de correction thermique intéressant lorsqu'il est appliqué en plus faible épaisseur. Donc par exemple, si on fait un ravalement de façade sur une vieille maison, il va pouvoir servir de corps d'enduit. Donc le corps d'enduit, c'est la première couche d'enduit avant l'enduit de finition. Donc évidemment, plus on appliquera d'épaisseur, plus l'isolation sera efficace. Pour ce qui est des bâtiments d'après-guerre, il n'y a généralement pas de contre-indication particulière du point de vue du fonctionnement physique du bâtiment, comme c'est le cas pour le bâti ancien. On pourra ainsi utiliser des matériaux classiques et bon marché, type laine minérale ou polystyrène, sans que la structure du bâtiment soit menacée. Par contre, d'autres arguments pourront nous orienter vers d'autres matériaux, comme leur bilan environnemental, leur efficacité pour le confort d'été ou leur qualité sanitaire.
La solution classique pour l'isolation des murs, celle que l'on retrouve le plus souvent, c'est l'isolation des murs avec un doublage en plaques de plâtre. Mais on entend de plus en plus parler d'isolation par l'extérieur. Quelle est la meilleure solution technique ? Question Panserine.
Alors, en effet, en France, la solution la plus utilisée, c'est l'isolation par l'intérieur, qui consiste en la réalisation d'un doublage composé d'un isolant et d'un parement de finition. Donc souvent, c'est une plaque de plâtre. Ça peut également être un lambris en bois ou en PVC, ou une contre-cloison en briquette enduite de plâtre. Donc ça, c'est des techniques qu'on utilisait beaucoup dans les années 80. Donc listons ensemble un peu les avantages de l'isolation des murs par l'intérieur. Donc ça va permettre de passer des réseaux d'électricité, d'eau, de chauffage dans le doublage sans avoir à faire de saignée dans les murs. On va pouvoir masquer des murs en mauvais état. La mise en œuvre est plus facile, c'est-à-dire qu'un bon bricoleur peut s'en sortir. Et les travaux peuvent être faits progressivement, pièce par pièce. Par ailleurs, on va pouvoir conserver l'aspect architectural extérieur. Et, last but not least, comme on dit en anglais, niveau budget, c'est le plus économique. Par contre, l'isolation par l'intérieur va avoir quelques inconvénients. Donc il faut faire attention à ne pas céder trop rapidement à la facilité du cache-misère, et qui va pouvoir amplifier certains désordres, notamment en termes d'humidité. Donc on ne va pas venir isoler un mur humide qui a des soucis qu'il faut traiter. Réaliser un doublage par-dessus, ça peut entraîner de nouveaux problèmes, quoi. Donc un solide diagnostic de l'état du mur s'impose en amont, particulièrement sur le bâti ancien. Donc, par ailleurs, l'isolation par l'intérieur, c'est une technique qu'on peut qualifier d'intrusive qui implique de libérer les pièces qui vont être en chantier. Il faut déplacer les réseaux et les radiateurs et ensuite il est nécessaire de refaire toute la peinture et la décoration. Par ailleurs, il y a forcément une perte de surface habitable liée au doublage. On va laisser un nombre important de ponts thermiques, c'est-à-dire de points froids en hiver ou de chauds en été, au niveau des dalles, des cloisons et des murs de refend, ce qui fait qu'on est un petit peu moins efficace d'un point de vue thermique. Et dans certains cas, l'isolation par l'intérieur, en se coupant de la masse du mur, peut dégrader le confort estival.
Donc, si je résume, les principaux avantages de l'isolation par l'intérieur, c'est d'une part que c'est plus abordable et d'autre part que cela permet de conserver l'aspect extérieur d'une façade. Et l'isolation par l'extérieur, comment ça marche tout ça ?
Alors, l'isolation par l'extérieur, la technique va consister à venir appliquer un isolant sur la face extérieure du mur. Sur cet isolant, on peut avoir une finition de type enduit pour un aspect traditionnel. On le voit ici dans les locaux de Radio La Galaxie. De l'extérieur, on a l'impression que c'est une maison classique. Mais on peut également poser un bardage bois, PVC, composite, de la terre cuite, ou que sais-je. On peut faire pas mal de choses. Donc les avantages de cette technique, c'est que tout d'abord, on va traiter la plupart des ponts thermiques, donc au niveau des planchers, des cloisons, des murs de refend. Donc l'isolation va être plus efficace. On va pas avoir besoin de déménager pendant les travaux. Tout se fait par l'extérieur. Et un autre aspect important, c'est en termes de confort estival. En isolant par l'extérieur, on va conserver la masse du mur dans le volume habitable. Cette masse, elle va apporter de l'inertie, c'est-à-dire que les variations de température sont plus lentes, comme c'est le cas dans les maisons anciennes. Donc cette inertie va apporter du confort principalement en été, car le mur va pouvoir stocker de la fraîcheur pendant la nuit et la redistribuer en journée. On fait d'une pierre deux coups. On isole et on ravale la façade en même temps, avec des possibilités de changer totalement l'aspect d'une maison en jouant avec les différentes techniques d'enduit et de bardage. Par contre, comme toujours, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, l'isolation par l'extérieur a quelques inconvénients. Et en premier lieu, son prix. La technique est deux fois plus chère que par l'intérieur. Ensuite, elle est peu adaptée aux bâtiments à l'architecture complexe. Les coûts peuvent vite s'envoler. Et par ailleurs, elle peut masquer des particularités patrimoniales intéressantes, comme une belle façade de maison toulousaine en briques égalées, comme on en a beaucoup dans le coin. Donc, vous l'aurez compris, pour guider votre choix entre isolation intérieure et extérieure, il faut prendre en compte l'aspect architectural du projet. Côté budget, avantage à l'isolation par l'intérieur, mais d'un point de vue thermique, net avantage pour l'isolation par l'extérieur. Enfin, il y a des moments opportuns à ne pas rater. Ainsi, si vous songez déjà à un ravalement de façade, pensez isolation, parce que le surcoût de l'isolant peut être largement compensé par les aides financières et les économies d'énergie engendrées.
Ah, il y a donc des aides financières pour isoler ces murs, tout comme pour les autres postes de travail liés à la rénovation énergétique. On en a parlé dans la dernière chronique. Cela peut paraître complexe, mais nous rappelons à nos chers auditeurs que vous êtes là pour les conseiller et les accompagner, n'est-ce pas Rémi ?
Oui, tout à fait. Donc pour l'isolation, les aides peuvent couvrir entre 20 et 90% du coût des travaux, selon la situation des ménages. Et nous, conseillers de l'espace Info Énergie du PIC Toulousain, nous sommes missionnés pour vous délivrer des conseils objectifs, neutres et indépendants sur les techniques de rénovation énergétique et sur les aides financières. Vous n'hésitez pas à nous contacter du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h au 05 61 97 34 20.
Et on le répète presque tous les mois, mes chers auditeurs, faites attention aux démarchages et aux offres commerciales trop alléchantes. On rappelle que l'espace Info Énergie est justement là pour informer et orienter les particuliers de manière neutre et indépendante. Et d'ailleurs, peux-tu nous rappeler quelques règles de précaution à ce sujet, Rémi ?
Oui, alors il est toujours utile de le rappeler, on entend beaucoup parler des offres d'isolation à 1 euro. Ce qu'il faut en retenir, c'est que quelles que soient vos retenues, vous pouvez bénéficier d'aides. Et vous en bénéficierez également en travaillant avec des artisans locaux, dont vous pourrez plus facilement vérifier la réputation. Donc pas besoin pour cela de céder aux sirènes des plateaux téléphoniques, qui au passage vont bientôt manquer de travail, car le gouvernement envisage d'interdire le démarchage téléphonique pour les travaux. Donc, moralité, n'hésitez pas à nous contacter pour vous renseigner sur les techniques les plus adaptées à votre projet et les aides auxquelles vous êtes éligible. faites faire des devis, revenez nous voir. Nous pouvons vous aider à les comparer, à faire les bons choix. Mais surtout, surtout, ne signez jamais rien dans la précipitation.
Merci pour ces rappels, Rémi. Vous organisez aussi des permanences décentralisées sur le territoire. Est-ce que tu peux nous donner les dates et les lieux de ces prochaines permanences pour le mois de mars et avril ?
Oui. Alors, en mars, nous serons le jeudi 12 mars, le matin, nous serons au Fousseret à la mairie. Le 19 mars, au matin, nous serons à Cazères, à la communauté de communes Cœur de Garonne. Le 26 mars, le matin, à Rium, à la maison du tailleur. Et en avril, nous serons donc le jeudi 2 avril, le matin, à Carbonne, à la maison de service au public. Et à Haute-Rive, l'après-midi, à la communauté de communes du bassin haute-rivain. Le jeudi 9 avril, nous serons le matin au Fousseret à la mairie. Et le jeudi 16 avril, le matin, nous serons à Cazères, à la communauté de communes Cœur de Garonne. Et enfin, le jeudi 23 avril, nous serons à la maison du tailleur à Rium.
Merci Rémi de ton intervention sur les ondes de Radio Galaxie.